Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi qui l'ai dit.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Les avocats de Salah Abdeslam plaideront aujourd'hui pour la défense de leurs clients. Et comme à chaque fois, en pareilles circonstances, chacun s'interrogera. Quelle motivation pour un avocat à défendre l'indéfendable? Comment plaider pour celui qui est perçu comme un monstre? Les avocats d'Abdeslam ne plaideront pas l'acquittement. Ils réclameront sans doute une peine qui permet un espoir pour leurs clients. Ils chercheront à exposer la part d'humanité, pense-t-ils, qui existe chez celui qui assure la conscience. Les 131 morts des attentats du 13 novembre, les 413 blessés, les familles endeuillées. C'est une mission impossible. Trouver des soupçons d'humanité dans un océan d'insensibilité. C'est une mission impossible, mais c'est aussi la noblesse de l'âme humaine, de ne jamais désespérer. Abdeslam sera défendu aujourd'hui précisément au nom de cette idée à laquelle certains s'accrochent et que d'autres récusent. Il y a toujours un espoir dans le cœur des hommes. Audrey Berthaud, il est 9h.
À Paris, un homme a ouvert le feu cette nuit près des Champs-Élysées. Ça s'est passé vers 22h, rue Pierre-Charron, dans un bar à chicha. Deux personnes ont été blessées. À ce stade, on ne connaît pas l'état de santé des victimes. Le tireur a pris la fuite et une enquête a été ouverte. La guerre en Ukraine, alors que les Russes ont lancé toutes leurs forces sur la région de Lugansk, Kiev ordonne à ses troupes de quitter Severodonetsk. Plus de 500 civils étaient encore cette nuit dans des abris à Azov, la zone industrielle, selon les autorités. Enfin, en Italie, la Sardaigne est confrontée à une invasion de sauterelles dévorant champs et récoltes sur leur passage. Les agriculteurs en font les frais. 30 000 hectares de champs ont été détruits.
Brigitte Millot est avec nous, on parlera du Covid, mais également de l'affaire Zakharopoulou dans une seconde. Laurent Geoffrin, Georges Fenech et Nathan Dever, bonjour. On parlera
très bien,
de la...
Très bien votre introduction.
Non.
Ça vous rend une part d'humanité, c'est bien.
C'est vrai. Je vous remercie. Mais on parlera tout à l'heure, parce qu'on sera avec Alain Jakubowicz, c'est un sujet qui nous passionne en fait, comment défendre l'indéfendable. Entre 10h et 10h30, on sera avec lui, parce qu'il était d'ailleurs au procès Barbie, il nous parlera de Vergès, c'est une question récurrente, bien sûr, qui nous anime. Comment est-il possible de défendre Abdeslam? Et d'ailleurs, ces deux jeunes avocats sont effectivement étriés aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais qu'on commence vraiment par l'affaire Zakharopoulou. Et d'ailleurs, il y a quelques minutes, j'ai vu qu'il y a un communiqué du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. On va écouter une patiente, c'est RTL qui a recueilli son témoignage. Moi, je suis souvent surpris de la société dans laquelle nous vivons. Chrysoula Zakharopoulou, qui est donc secrétaire d'État chargée de développement de la francophonie et des partenariats internationaux, donc elle est ministre, et elle est accusée aujourd'hui de viol, nous dit-on, pour une plainte qui a été déposée le 25 mai et l'enquête ouverte deux jours plus tard, le 27 mai. Cette femme que vous connaissez d'ailleurs, Brigitte.
Oui, je la connais. C'est une sommité dans son domaine. C'est elle qui a fait connaître, qui a sensibilisé les gens à l'endométriose, cette souffrance de nombreuses femmes. Elle avait, avec Julie Gayet, elles se sont vraiment battues pour faire connaître cette maladie, cette pathologie. Mais il y a eu un plan national d'ailleurs de lutte contre l'endométriose. Oui, c'est une sommité.
Mais... Et son nom est jeté en pâture, on l'accuse de viol. Et je suis toujours frappé aujourd'hui combien la parole des plaignantes est devenue sacrée, quasiment parole d'évangile aujourd'hui. Et on va essayer de comprendre avec vous. Mais tout d'abord, je voudrais donc écouter cette plaignante, car témoignage recueilli par RTL. Et je voudrais que vous décodiez, parce que ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a une charte de la gynécologie, est-ce qu'il y a des pratiques, est-ce qu'on doit prévenir l'acte médical ou l'acte que le gynéco est en train de faire. Donc écoutons d'abord ce témoignage.
Au rendez-vous, elle est arrivée en retard, en tenue de sport avec un sac de sport. Elle ne m'a pas regardée dans les yeux. Elle m'a dit de m'allonger, elle m'a pas prévenue, elle a mis sa main entière à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que c'était un poing qu'on m'enfonçait. J'ai eu très mal, mais j'ai pas crié, j'ai pas pleuré. Et elle a dit, là, normalement, vous devriez crier. Cette phrase m'a sidérée, en fait. Elle appuyait, ça me faisait vraiment très mal. J'ai osé demander si c'était vrai que j'étais vraiment stérile. Elle a repris mon dossier et elle a dit, mais ma peau, vous avez rien compris, vous n'aurez plus d'enfants, vous êtes stérile. Et je me suis mise à pleurer. J'ai livré mon témoignage à la chef de service. Elle m'a dit, c'est très bien, c'est important ce que vous me dites parce qu'on a des plaintes qui commencent à remonter. Derrière tout ça, je ne comprends pas ce que cette femme fait au gouvernement en disant que les femmes, c'est une cause importante alors qu'elle leur fait du mal.
Je précise que ce témoignage est anonyme, que cette dame n'a pas déposé plainte parce qu'elle ne souhaite pas entrer dans une procédure judiciaire. Et voilà, j'ai beaucoup de mal.
On ne va pas rentrer dans le cadre précis de ce témoignage.
Ah si, ça m'intéressait.
Non, mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que c'est très compliqué. Quand on est gynécologue, vous imaginez bien que quand vous êtes... c'est horrible ce que je vais dire, mais quand vous êtes déshabillé, les jambes écartées sur des étriers, forcément, le gynécologue va faire un toucher vaginal, surtout quand on recherche... Non,
mais est-ce qu'il doit le dire, par exemple?
Oui,
est-ce que dans la charte, il doit dire, madame, je vais vous
bien
faire...
Bien sûr, mais enfin, on se doute bien, lorsqu'on est déshabillé, encore une fois, sur une table gynécologique, on se doute bien que le gynécologue ou la gynécologue va vous faire un examen gynécologique, parce qu'il y a des choses qu'on peut voir aux imageries, mais il y a des choses où il n'y a que la clinique et le toucher vaginal qui pourra...
Mais cette dame, par exemple, qui a eu sans doute des... pas cette patiente, hein, cette dame, Madame Crisoula
Zakharopoulou.
Bon, qui a des milliers, sans doute, de patients.
Oui. D'ailleurs, ce serait bien qu'elle témoigne, justement, voilà. de la manière dont elles ont été traitées.
Non, je suis d'accord avec vous, mais le problème que ça pose, donc elle a sans doute reçu des milliers de patients. S'il y a une ou deux personnes qui viennent simplement dire, voilà, ça s'est mal passé, et il peut avoir ce rapport-là avec un médecin. Donc cette parole devient d'évangile. Donc les médecins...
Vous savez très bien que c'est le cas dans toutes les minorités maintenant. Hein. Il y a une association aussi de lutte contre les violences gynécologiques qui est menée par une femme qui reproche d'ailleurs dans cette profession qui est beaucoup trop d'hommes. Enfin voilà, après on tombe dans d'autres
revendications. Parce que les médecins vont avoir... Ça doit être très difficile d'être médecin d'une certaine manière aujourd'hui. En tout cas,
exactement.
Ce type de spécialité.
Alors, dans le domaine de la gynéco-obstétrique.
Hein. Alors donc... Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français donc, porte la plus grande attention aux plaintes exprimées par les femmes. Je ne vais pas lire tout le communiqué. Nous appelons les pouvoirs publics à ouvrir une réelle discussion à ce sujet entre magistrats, avocats, représentants des patientes, philosophes et médecins de notre spécialité. Dans l'intérêt des patientes, pratique des examens vaginaux ou rectaux. La loi définit la notion de viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.
Mais enfin, quand vous êtes gynécologue, vous mettez un spéculum. Un spéculum, ce n'est pas un viol, c'est un objet pour examiner votre col.
Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que dans l'espace médiatique, depuis trois jours, cette dame est montrée, je ne veux pas la défendre d'ailleurs, mais je veux dire, on dit qu'elle a violé.
Non, mais je...
Donc je ne la connais pas, cette femme, mais je m'interroge sur notre société.
Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de certains professionnels de santé qui ont été maltraitants avec leurs patientes. Hein. C'est comme les violences policières. On ne va pas dire les violences policières. Il arrive qu'il y ait des personnes qui se comportent...
Ce que rapporte cette dame, elle dit, voilà, elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Bon, tout ça est très possible, d'ailleurs. Tout ça est très possible. Mais vous voyez bien que... Il y a quelque chose, c'est un témoignage sur sans doute des milliers de personnes qui...
Vous vous rendez compte?
Des milliers, je ne sais pas.
Si vous voulez, avant, moi ce qui me navre, mais ce n'est pas d'ailleurs que dans la gynéco, c'est qu'avant, le médecin et le patient, c'était la rencontre de deux confiances. Oui. Et maintenant, ça va être la rencontre de deux méfiances. Et c'est ce qui va être terrible.
Cette phrase est très forte, Brigitte. Et je trouve qu'effectivement, elle illustre notre société d'aujourd'hui. Que faire?
Mais dans le passé, il y a eu plusieurs affaires de viols commis par des gynécologues, mais hommes, avec des véritables viols.
Hein. Oui.
C'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est compliqué, parce qu'effectivement, un toucher vaginal...
Après, Moi, je n'ai pas du tout, je vais pas rentrer là-dedans, mais effectivement, dans le service dans lequel travaille Chrysoula, son chef de service, lui, a eu aussi des plaintes contre lui. Donc voilà, je crois que c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est vrai que depuis 3 jours, on ne parle que de ça, et c'est terrible. Bon. Là,
je lis hein, de nouveau, la charte des bonnes pratiques précise que la consultation en gynécologie ou en obstétrique n'est pas une consultation comme les autres, puisqu'elle touche à l'intimité des patientes, et que l'accord oral de la femme est recueilli avant tout examen clinique. Par ailleurs, l'examen doit pouvoir être interrompu dès que la patiente en manifeste la volonté. Mais enfin, ça me paraît évident. Je veux dire, il n'y a pas une gynécologue qui va aller contre le désir ou...
Et puis là, il y a une véritable souffrance. Quand on souffre d'endométriose, on a déjà des douleurs. Enfin, c'est terrible. Ouais. Et il y a toujours, ça a été dit dans le témoignage, l'annonce de la stérilité aussi. Enfin, je veux dire, c'est aussi très particulier, l'endométriose. Hein. C'est une pathologie très particulière aussi.
Mais dans cette histoire, sans m'exprimer sur le viol en tant que tel, mais dans le témoignage qu'on a entendu, ce que je trouve qui interpelle, c'est le rapport à la parole. Oui. Entre le médecin et le patient. Parce que là, dans ce témoignage, apparemment, elle n'avait même pas prévenu ce qu'elle allait faire, oui, elle n'avait pas parlé. Oui. Je crois, c'était le docteur Alain Toledano, je cite de mémoire le chiffre, mais je crois qu'en France, un médecin coupe en moyenne la parole à son patient toutes les 20 secondes. Alors, c'est un sujet un petit peu différent, mais ça montre bien qu'il y a parfois, dans le rapport médecin-patient, une non seulement, comme vous le disiez, peut-être deux méfiances qui vont s'entrechoquer, mais deux silences ou deux rapports différents à la parole.
D'accord avec vous, mais moi, c'est toutes les 10. Bon, en tout cas, ce sujet vraiment nous intéresse, que là encore, je trouve que c'est à la fois un sujet qui éclaire la société française et qui montre votre formule est formidable d'ailleurs, de confiance, de défiance. Bon, vous êtes là également ce matin pour nous parler du Covid. Là, j'ai vu tout à l'heure Monsieur Pialou sur une chaîne concurrente avec son masque.
Ressort.
Avec son masque. Ben pourquoi pas, il a raison d'ailleurs. Pourquoi pas avec son masque? Bon, l'été menace.
Il était en face, interviewé par une personne fragile. C'est bienveillant.
Ah bah, c'est pas gentil pour Apolline de Malherbe. Qui n'est pas du tout fragile, qui est une jeune femme qui me paraît d'abord remarquable et en très bonne santé. Donc le 1er juin dernier, il y avait 25 000 cas de Covid. Aujourd'hui, on est à 79 000. 800 cas de Covid. Donc effectivement, il y a une augmentation très forte. Voyons le sujet et on en parle avec vous.
Quelques minutes à peine après avoir reçu sa 4e dose, Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, a tenu à alerter les Français sur la situation sanitaire du pays.
Il y a une circulation du virus qui est plus intense dans les pays européens et donc aussi en France, y compris notamment en région parisienne, donc nous sommes en vigilance.
En une semaine, le nombre de nouveaux cas en France a bondi de 49%. Une reprise qui a commencé fin mai et a depuis été multipliée par 3. Elle est aujourd'hui observée dans toutes les régions métropolitaines et dans presque toutes les classes d'âge. En cause, l'apparition d'un nouveau sous-variant.
C'est le fameux variant, c'est un petit cousin de l'Omicron, hein, c'est le BA5, qui est 10% plus contagieux que le BA2, qui était déjà 40% plus contagieux que l'Omicron. Donc on est sur des formes plus contagieuses, moins virulentes.
Certains spécialistes craignent l'arrivée d'une nouvelle vague cet été. Ils estiment que le retour du port du masque dans les transports aiderait à l'éviter. De son côté, le gouvernement n'a pour l'instant pas évoqué de nouvelles restrictions.
Votre sentiment, est-ce que l'été est menacé? Est-ce qu'il faut... par exemple, tiens, on va demander d'ailleurs aux Français, on a demandé aux Français, est-ce qu'il faut porter le masque dans les transports? Écoutez-les.
Oui, je crois que ça serait une bonne idée. Mais je ne suis pas convaincue que les gens vont le faire.
D'une part, ça peut être positif. C'est surtout pour la santé de tout le monde, pour la protection de tous les usagers. Donc moi, personnellement, ça ne me dérange pas de remettre le masque.
Le masque, il protège les autres contre ce que vous émettez. Donc, c'est une bonne chose de le remettre si jamais il y a une remontée de la pandémie.
C'est ceux qui veulent, on a le droit de faire ce qu'on veut maintenant. Donc moi, je suis pour que ceux qui ont envie puissent le porter. Après, savoir s'ils vont obéir, c'est pas sûr, parce que de toute façon, ils y croient plus. Il n'y a que quand ils sont malades qu'ils comprennent. Et quand ils sont malades, une fois qu'ils ont été malades, ils disent de toute façon, c'est plus la peine puisque j'ai déjà été infecté.
C'est un beau panel, ça.
Il y a des gens, tu te dis, t'as envie de prendre un verre avec eux en sortant. Tu te dis vraiment, ça doit être sympa leur vie. Mais bon.
Non mais c'est un monde en fait. Le masque c'est un monde. C'est un rapport au monde.
Donc votre question était de savoir ce qui allait se passer. Oui. Alors on ne sait pas. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est observer ce qui se passe déjà ailleurs. Oui. On a une remontée donc due au BA5, au sous-variant d'Omicron, oui. Le dernier arrivé qui a supplanté un peu tout le monde en Afrique du Sud. Donc il y a une épidémie avec une montée comme ça en cloche et qui est redescendue. Ce que disait professeur Raoult, à chaque fois, c'est toujours la même courbe. En fait, c'est une succession d'épidémies.
Professeur Raoult qui dit que le variant est plus fort là où il y a eu des injections massives de la population.
Oui, mais enfin, ça, il n'y a pas aucune...
Il dit que plus on a vacciné, plus le variant est présent.
Plus on vaccine, plus le variant est présent. C'est-à-dire qu'on vous inocule le virus.
Je n'en sais rien. Il souligne que les variants sont d'autant plus présents que tout le monde a été vacciné.
Il y a une étude hier de l'Imperial College de Londres qui a montré que grâce à la vaccination, on aurait évité 20 millions de morts. Donc voilà, on peut discuter chiffres si vous voulez. Je disais, en Afrique du Sud, il y a eu cette épidémie due au BA5 qui a duré environ 8 semaines. Au Portugal, il y a eu cette même épidémie qui a eu à peu près la même durée, 6-7 semaines. Donc, effectivement, il est possible, et c'est en train d'arriver aussi chez nos voisins en Allemagne, en Autriche, tous les voisins d'Europe du Nord, c'est la même épidémie. On pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas de la même manière avec une épidémie qui va monter.
Donc bon, il n'y aura pas de nouvelles restrictions.
Au mois de juillet, on aura une montée, une augmentation du nombre de cas, avec peut-être quelques hospitalisations, on estime qu'il y aura le nombre d'hospitalisations doublera en juillet, mais pas en soins critiques, pas de forme grave. Grâce à la vaccination.
Oui, donc vous pensez qu'il n'y aura pas de nouvelles restrictions ?
Non.
Alors,
vous êtes moqué des personnes interviewées.
Mais je ne suis pas moqué. Il y a des gens avec qui j'aimerais prendre un verre.
Non, mais je trouve que là, au moins, justement, chacun est libre de porter ou pas le masque.
Je suis d'accord.
Voilà.
Je suis d'accord. Bon, de toute façon, il y a un avantage avec cette nouvelle assemblée, c'est que maintenant, pour prendre des décisions, ça va être plus compliqué.
C'est sûr.
Avant, il y avait un pouvoir un peu autoritaire, disons-le. Donc maintenant, hop, c'est plus possible. Moi, j'aime bien cette nouvelle assemblée.
Chacun se responsabilise. On ne va pas rendre obligatoire le masque. Hein.
On l'avait
annoncé après les élections, vous allez voir.
Oui.
Mais je ne pense pas.
Mais il y a une assemblée qui est différente, parce que si vous aviez 300 personnes de la Renaissance, on serait déjà masqués.
Moi, je les connais.
Claude Rébertot.
Accusation gratuite.
Aux États-Unis, le Sénat adopte un projet de loi interdisant de limiter les armes avec des restrictions sur l'accès aux armes à feu et des milliards de dollars pour financer la santé mentale et la sécurité dans les écoles. Ce projet intervient alors qu'à New York, la Cour suprême a affirmé que les Américains avaient le droit de porter des armes hors domicile. Et puis attention, si vous prenez les transports ce matin en Île-de-France, des perturbations sont attendues après un appel à la grève de la RATP et de la SNCF. Les lignes A, C et D du RER vont être particulièrement touchées et seulement un train sur trois circulera sur les lignes H, J, L et R du Transilien.
Écoutez,
enfin,
madame,
la finale du top 14, c'est ce soir à partir de 20h45 sur Canal+. Montpellier et Castres s'affronteront au Stade de France en 2018. Lors de la même finale, Castres avait terrassé le favori Montpellier, 29-13.
Et on recevra Fabien Villedieu tout à l'heure, qui est représentant de Sudrail, conducteur de train en ligne, puisque ce soir, il y a grève. Vous direz ce que vous pensez de cette grève. On va écouter Mme Bourguignon. Vous savez qui va être ministre de la Santé ?
Pas du tout.
Il y a des noms qui circulent, il y a des profils ?
Sûrement, mais...
Philippe Juvin ?
On a beaucoup parlé.
Mais vous voulez recaser tous vos amis des LR, parce que vous n'avez toujours pas compris que vous n'avez pas gagné les élections. Donc, vous voulez que le Premier ministre soit LR, vous voulez que le ministre de la Santé soit LR, ministre de la Justice soit LR. Non, mais c'est bien. Vous êtes en 86. Vous allez demander Charles Pasqua, vous allez demander Pandro. Le temps s'est arrêté.
Il est moqueur. Non, mais je...
ça sera un très bon ministre.
Philippe Juvin.
Moi, j'aimerais bien.
C'est un des noms qui circule actuellement.
Martin Blachier, ce serait bien. Oui, mais Philippe Juvin, il est un peu enfermiste. Hein. Ouais. Il est un peu enfermiste.
Sûrement une femme.
Ah oui, ça serait bien. Mais alors, qui, par exemple, qui Vous n'avez pas de nom du tout. Il y a pas de, quels sont les noms qui
circulent? Non, le nom qui circule le plus, effectivement. Ouais.
C'est... Ah, c'est le nom qui circule le plus.
Donc, vous savez que quand les noms circulent, ça ne se passe pas.
Ils circulent moins que le Covid, si vous me permettez. Je voudrais qu'on écoute Mme Bourguignon, qui est encore ministre pour, je crois, quelques heures.
Je ne pense pas que l'obligation soit toujours absolue. Pour l'instant, je fais un appel en disant, si vous sentez quand même qu'il y a trop de présence, de promiscuité, dans les transports notamment, et chacun le sait, eh bien, il est recommandé fortement de mettre le masque. C'est une protection qui vous est personnelle, mais c'est aussi une protection pour les autres. Donc voilà ce que je recommande aujourd'hui. Et encore une fois, nous adapterons à chaque fois la teneur des dispositions dont on parle selon la situation épidémique.
Bon, Laurent, vous avez mal dormi cette nuit, non ? Vous ne parlez pas aujourd'hui ?
Non, mais... Si, ça m'intéresse, mais je constate que vous êtes toujours aussi... Votre croisade pour le Covid est quand même permanente. Quoi. Enfin, vous n'avez rien appris, rien oublié.
Vous voulez dire ma croisade pour la vie ?
Pour le Covid. Ah. Parce que vous êtes contre toutes les précautions.
Non, je ne suis pas...
C'est pas des obligations, là. C'est des précautions. C'est du bon sens.
Répondez-lui.
Si on met le masque, on a le droit de le mettre, d'abord.
Et oui, mais...
Deuxièmement, si on le met, c'est pas pour être enfermiste ou je sais
quoi. Que les gens fragiles mettent le masque, il n'y a aucun souci.
Oui.
Et que les gens fragiles se fassent...
Oui, mais avant de savoir si on est fragile ou pas...
C'est une croisade contre la servitude. C'est pas pour le coronavirus. C'est pas le sujet. Personne... Enfin, si, Brigitte, mais
la
sinon...
La servitude, nous sommes pas médecins. Mais enfin, c'est pas sérieux. Ce terme est outrancier, mon cher. Outrancier. Enfin, la servitude, c'est des précautions sanitaires. Alors, puis, elles sont excessives, discutées, etc. Mais... Décrire la France comme une espèce de dictature parce qu'on a pris des précautions.
Mais perdis ça, on a des servitudes.
Oui, servitude, dictature, ça va ensemble.
Mais parce que, cher Laurent, nous pensons avec notre ami Nathan, nous pensons que le remède est pire que le mal.
C'est contredit. Mais Brigitte vient de vous dire que la vaccination a sauvé des millions de gens.
Mais on ne vous parle pas de la vaccination.
Sur le plan médical.
Si, parce que vous allez encore sortir Raoult, l'homme de l'hydroxychloroquine. Tout le monde a oublié ça, ce truc-là.
Il n'a jamais été contre le vaccin.
J'espère.
Mais regardez même là.
Ce type-là s'est vendu à l'opinion avec son hydroxy, machin, chloroquine, dont tout le monde sait que ça ne marche pas. Et personne n'en parle plus, et pour cause, puisque ça ne marche pas du tout.
Mais là, dans ce que...
Et il est toujours là, en train de donner des leçons, etc. Il y a un moment où le crédit des gens doit être indexé sur
si on appliquait cette grille médicale à vos grilles d'idées politiques, Laurent Geoffroy, vous ne parleriez plus depuis longtemps.
Je n'ai pas compris.
Moi, j'ai très bien compris. Parce que ça fait 30 ans que vous donnez des leçons sur
la
de gauche.
Avec
un succès quand même modéré.
J'ai défendu l'abolition de la peine de mort, mais vous êtes donc pour, j'imagine. C'est une bêtise. J'ai défendu la,
pourquoi
la libéralisation. Parce que vous dites que c'est des bêtises, donc vous dites le contraire.
Vous avez bien
donc, par
vous
exemple,
avez
la libéralisation de l'audio visuel, c'est une bêtise, vous ne voulez pas le faire, etc.
Donc,
il n'y a pas que des bêtises.
Il n'y a pas que des bêtises.
Donc, votre déclaration. Plaisante.
Elle était
totalement fausse.
Elle était faite pour animer ce début de l'émission. J'entends
bien.
Parce que c'est vendredi.
Vous trouviez que je dormais.
Je voulais vous réveiller.
Vous voulez juste se réveiller.
Bon, Brigitte, demain vous faites. C'était bien le sommeil l'autre jour. Je trouve que c'est un sujet passionnant quand vous avez traité le sommeil. Hein, manifestement, Laurent avait bien écouté l'émission. Et alors, qu'est-ce que vous faites demain ?
Alors, demain, on parle du bronzage avec Sacha. On explique comment ça marche. C'est un mécanisme de défense, le bronzage. Ce n'est pas que de l'esthétisme.
Il n'y aurait pas une pilule qu'on prendrait, on serait bronzé toute l'année. Ça serait
fort. Non.
Parce que ça donne bonne mine de bronzage.
Après, il y a du fond de teint, Pascal.
Oui,
il y a de l'auto-bronzant,
Oui, oui, t'as l'air orange avec l'auto-bronzant. J'en connais deux ou trois qui prennent de l'auto-bronzant. T'as l'impression d'être une carotte.
Et avec Martin, avec le docteur Martin Blachier, nous parlerons justement de cette 7e vague. Et nous parlerons aussi des masques et de la vaccination.
Exactement. Le bronzage, faut faire attention toujours.
Le bronzage ?
Oui. Faut pas se mettre en place.
Alors, si je vous parle de modération avec le soleil, ça vous dit quelque chose ?
Et moi, c'est ma drogue favorite.
Oui, je sais que vous restez des heures au soleil.
Oui, mais quelle est votre drogue favorite, le soleil ? Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui aiment... On aime bien ça, quoi. C'est rare, les gens qui n'aiment pas le soleil, non ?
Oui, mais il faut y aller. Vous avez une peau qui est mate, mais les personnes qui ont une peau claire, ça peut être très. D'abord,
il... Regardez Georges, il est toujours bronzé, il est beau comme tout, avec pareil.
Le soleil de la Baule, ça va.
Non, pas d'ironie, hein, s'il vous plaît, le soleil de la Baule. Là, je voyais. Pas d'ironie, parce que déjà, avec les LR, vous êtes limite en ce moment. Donc, si en plus vous attaquez la Baule. Bon, c'est à quelle heure demain?
Demain, c'est à 10h, comme tous les samedis matins. Pascal.
Mais j'allais vous dire. Bien sûr. Bon, la pause, et on reçoit M. Villedieu, de son prénom Fabien, représentant Sudrail, conducteur de train en ligne, RER D. Alors, il est en grève. Il est en grève parce qu'à chaque fois que maintenant il y a un grand match, et un événement, hop, on se met en grève. À tout de suite. Les spectateurs qui voudront se rendre au Stade de France ce soir pour la finale du top 14 entre Castres et Montpellier pourraient rencontrer des difficultés en raison d'un appel à la grève sur les lignes A, B, C, D du RER. Et nous sommes avec Fabien Villedieu, que vous connaissez, qu'on avait beaucoup vu au moment de la grève déjà des trains. C'était pour la réforme des retraites. Bonjour et merci d'être avec nous. On va entamer la discussion dans une seconde, mais d'abord Audrey Berthaud.
Un refus d'obtempérer près de Lille. Des policiers ont été percutés par un véhicule. Un d'eux a été blessé. Le suspect, connu des services de police, a réussi à prendre la fuite. Il est toujours recherché. 330 cas de variole du singe confirmés en France, dont une grande majorité en Île-de-France. Et parmi eux, une femme. C'est la première fois qu'une femme est contaminée par le virus dans le monde. 3200 cas ont été recensés. L'OMS appelle à la vigilance. Enfin, ce double meurtre en Amazonie. Les corps du journaliste britannique Dom Phillips et l'expert brésilien Bruno Pereira, tués par balle le 5 juin, ont été rendus hier à leur famille. Un quatrième suspect dans cette affaire s'est rendu aux autorités hier.
Avant de discuter du bien fondé de faire une grève le jour où il y a un événement au Stade de France, je voudrais, Monsieur Villedieu, que vous nous exposiez les motifs de votre grève, les revendications que vous avez. Et là, vous voyez, il y a un jury de 4 personnes. On va se dire si ces revendications sont légitimes ou pas. Et on prend les téléspectateurs à témoin également, en toute honnêteté intellectuelle.
Ce qu'il faut savoir, c'est que en ce moment, en Île-de-France et un peu partout sur les réseaux ferroviaires, il y a énormément de travaux, ce qui est une bonne chose. Voilà. Parce que si vous voulez que les trains ils soient à l'heure, il faut faire des travaux. Sauf que ce qu'on savait faire il y a quelques années, on ne sait plus faire aujourd'hui, c'est-à-dire programmer suffisamment les travaux pour que les conséquences sur ces travaux n'aient pas de conséquences néfastes pour un certain nombre d'agents comme les conducteurs de train. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des mois et des mois que nous, conducteurs de train, nous sommes commandés au dernier moment, la veille pour le lendemain. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de professions qui
accepteraient. Ça, c'est la première revendication que vous avez. Vous trouvez dommage. C'est-à-dire, vous trouvez dommage qu'on vous prévienne la veille de ce que vous allez faire le lendemain.
J'invite les gens à se projeter. Oui. C'est-à-dire, vous avez une vie, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez des rendez-vous médicaux. Voilà. Et ben, la veille pour vous le lendemain, on vous dit, votre rendez-vous médical ou pour récupérer vos enfants à la crèche ou à l'école, c'est pas possible. D'accord. Parce que là où vous deviez finir à 14h, on vous explique que vous
allez
finir.
Donc ça, c'est la première revendication. Le programme vous est donné.
Que ça fait des
mois.
Pour
tout le monde.
Ça fait des mois.
Non, mais pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Voilà. C'est-à-dire que vous, par exemple, votre programme, on vous l'a donné hier.
Voilà. Bah, là, aujourd'hui, je suis en grève. Donc, d'accord. Pour le coup, je connaissais ma programmation.
Je pourrais vous répondre que les journalistes, c'est un peu ça, mais ils l'ont choisi. Les journalistes, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. Souvent, c'est-à-dire qu'ils partent au bout du monde ou pas, d'ailleurs. Bon. Mais j'entends cette revendication. Est-ce que c'est une bonne ou pas revendication? On pourra en discuter. Première. La deuxième revendication.
Mais. Je voudrais quand même insister sur le fait, parce qu'on dit oui, mais les syndicats, vous êtes toujours là, dégainer la grève,
non, mais moi,
quoi qu'il arrive.
Bien sûr.
Cette revendication et le fait qu'on a challengé la direction, parce qu'on a challenge toujours les organisations syndicales, ça fait des mois et des mois qu'on dit à la direction, il faut que vous trouviez des solutions.
Et c'est pas très compliqué.
Et des mois et des
mois.
A priori, je sais pas si c'est compliqué, mais en tout cas, ils y arrivent pas. Voilà. Donc, on n'est pas.
En fait, j'ai du mal même à vous croire. On n'est pas dans une situation. 24 heures avant, j'ai l'impression que vous.
On n'est pas dans une situation où ça fait 15 jours que ça dure et on se dit, non, nous, y compris, on a été cool. Moi, je vous le dis, pourtant, Sudrail, on a toujours l'image d'extrême ministre. On a été cool. On a dit depuis des mois et des mois, il va falloir vous améliorer. Aujourd'hui, la direction n'y arrive pas, en partie parce qu'elle n'arrive pas à embaucher. À cela s'ajoute une deuxième couche, et ça c'est vrai, je serais malhonnête de vous le dire, où il y a un problème de salaire à la SNCF. Voilà. Ce qui fait qu'il y a un mécontentement, ça fait 8 ans que la grille de salaire à la SNCF a été bloquée.
Pour tout le monde ou pour uniquement les conducteurs de train?
Pour l'ensemble des cheminots.
D'accord. Voilà. Alors est-ce qu'on peut connaître par exemple la grille de salaire qui est en cours à la SNCF et que vous contestez?
Après, ça dépend de quel métier vous faites. Mais moi, je donnerai qu'un seul exemple. Aujourd'hui, si vous prenez votre traitement de base, quand vous rentrez à la SNCF, vous êtes 300 euros en dessous du SMIC. Voilà, le SMIC, il est 1646. Vous rentrez à la SNCF avec un traitement brut de 1300. La seule chose qui fait la différence, parce que c'est illégal évidemment d'être en dessous du SMIC, c'est votre prime de travail et le fait que vous bossez en horaire décalé. Pas de bol, vous cassez une jambe, vous êtes en arrêt maladie, vous vous retrouvez en dessous du SMIC et du coup la SNCF est obligée, parce que c'est hors la loi, de vous payer.
Ça, c'est une revendication voilà. qu'on peut entendre.
Donc, ce qui pose d'ailleurs.
Oui, franchement, ça c'est une revendication. On pourrait imaginer c'est-à-dire que vous soyez au SMIC au minimum. Ça s'entend, me semble-t-il.
Ce qui pose d'ailleurs un problème d'attractivité à la SNCF.
Mais pourquoi ça alors? Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi les gens ne sont-ils pas embauchés au SMIC à la SNCF? C'est pas très compliqué ça non plus.
Ben, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on demande à la SNCF de faire énormément de bénéfices. Je vais vous donner un scoop. Voilà, la SNCF fait des bénéfices et va faire énormément de bénéfices tous les ans. Pourquoi ? Parce que l'État ponte, fait une partie des bénéfices, 60% des bénéfices de SNCF Voyageurs vont directement dans le réseau. Donc on a besoin de faire des travaux, d'alimenter, donc on a besoin de cash, énormément de cash. Donc ils challengent Farandou et lui disent, quand il y avait un ministre des Transports, maintenant il n'y en a plus, quand il y avait un ministre des Transports, il dit mais surtout n'augmentez pas les salaires, parce que si vous augmentez les salaires, ça va vous baisser les bénéfices et moi je n'ai plus d'argent pour financer les travaux. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé, rappelez-vous, l'année dernière, lorsqu'il y a eu le Covid. Bon, bah, l'État était obligé de mettre la main à la poche 4 milliards, parce que justement, il n'y avait plus de train, il y avait moins de TGV, donc, la SNCF n'a pas fait de bénéfices, donc l'État était obligé de mettre la main à la poche.
Alors, sur les salaires, par exemple, vous êtes conducteur de train.
Oui. Bon,
vous êtes à la SNCF depuis combien de temps ?
22 ans.
22 ans. Vous travaillez combien d'heures par semaine ?
Ça dépend, parce qu'après j'ai aussi des dégagements syndicaux, donc je ne fais pas.
Bon, alors, prenons un conducteur de train lambda.
Mais les cheminots, on est aux 35 heures.
35 heures, bon. Un conducteur de train après 22 ans à la SNCF gagne combien ?
Bon, ça dépend, mais je dirais 2800 euros.
Net ?
2800 euros net, en sachant qu'il travaille en horaire décalé, qu'il travaille les samedis, les dimanches, les jours de fête, qu'il peut prendre
35 heures, combien
matin,
de vacances ?
Et que par ailleurs.
Combien de vacances ?
Ben, 28 jours.
28 jours, il n'y a pas d'RTT ?
28 jours de congé, on a 10 jours de RTT.
Donc vous avez 40 jours de vacances par an. Ce qui est un peu plus que.
Bah, les RTT, non, ce n'est pas seulement des jours de vacances. Bon.
Ah, RTT, c'est quoi ?
C'est une réduction du temps de travail. Donc,
oui.
Voilà. Donc après, il y a.
Alors est-ce que là encore, est-ce que vous trouvez que c'est juste par rapport aux responsabilités, à l'engagement, au travail que vous faites ? Et alors, il y a aussi l'avantage, c'est que. Quand on est à la SNCF, votre emploi est protégé, a priori, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être viré.
Ça dépend. Si vous êtes contractuel, non. Et aujourd'hui, tous les salariés de la SNCF sont embauchés contractuels.
Mais est-ce que vous...
Tous les salariés... Non, mais c'est important ce que vous dites.
Bien sûr.
Moi, je suis un ancien, finalement, j'ai 22 ans. Donc, j'ai encore un statut.
Ouais.
Mais les nouveaux embauchés, ils n'ont plus de statut. Donc, eux, ils peuvent être licenciés comme à tout
à chacun. Est-ce que ça vous paraît juste comme salaire ou est-ce que ça vous paraît...
Moi, je ne suis même pas là de savoir, à la limite, mon avis, et ce n'est pas ce qui compte.
Ah, si, c'est
ce qui est important, c'est les jeunes. Comment ça se fait que la SNCF n'arrive pas à embaucher ? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut estimer. Moi, j'ai fait des plateaux télé, on m'a dit le statut, c'est le privilège suprême. Ouais. Il y avait les patrons du 440 et au-dessus, il y avait le statut des cheminots. Ouais. On a viré le statut, on n'embauche plus au statut. Super, il y en a plein de gens qui sont bien contents. Mais maintenant, on est en difficulté.
Donc, il manque combien de temps ? Il manque combien de personnes, pardon ?
Ça, je ne pourrais pas vous donner un chiffre. Mais là, j'ai vu, il y a un article du Parisien qui est sorti aujourd'hui qui explique... Ce que moi je disais dans les plateaux télé il y a quelques années, c'est-à-dire vous enlevez le statut, donc vous perdez l'attractivité de la SNCF. La SNCF n'arrive plus à embaucher. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On supprime des TGV. On supprime des TGV. Au moment où on nous dit qu'il faut faire du report modal, il faut que les gens quittent la voiture, prennent du TGV, on supprime TGV. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à embaucher au matériel. Au matériel, on n'arrive pas à embaucher.
Moi j'ai une question quand même. Je vais vous poser. Que vous ayez des revendications, c'est tout à fait légitime. Et qu'elles sont peut-être même pour la plupart légitimes. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Que vous ayez un droit de grève, c'est constitutionnel et garanti, et on ne le remettra pas en cause. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand même, quelquefois, de prendre en otage la population en choisissant des moments de grève, comme par exemple la finale du rugby, et vous prenez en otage des familles qui ne sont pas forcément fortunées, qui ont retenu leur billet de train, qui ont retenu leur lieu de vacances, et vous choisissez toujours des moments qui sont très pénalisants pour les usagers. Et donc, vous ne donnez pas une bonne image d'un service qui est quand même celui de la SNCF. C'est ça la question que je me pose.
Alors, c'était la deuxième partie, évidemment, de notre discussion. Et vous avez raison. Non, mais vous avez raison de l'amener maintenant. Ouais. On avait répondu sur la première. Vous avez raison.
Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les usagers, on est avec eux tous les jours. Quand le train est en panne, on est en galère avec les usagers. Quand les collègues des guichets, on ferme les guichets,
Et les gens, ils arrivent au guichet, ben ils engueulent qui ? Ils embellent le contrôleur qui vient les contrôler. La personne a voulu acheter un billet au guichet. Le guichet est fermé parce qu'il faut faire des bénéfices. Et pour faire des bénéfices, on supprime tous les agents des guichets. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont pas de billet. Ils voient le contrôleur qui leur demande un ticket. Ben, qu'est-ce qui se passe ? Ils engueulent le contrôleur.
Vous ne répondez pas à ma question. Là.
Non, ce que je veux dire, c'est que la galère avec les usagers...
Non, je la connais pas. S'il fait grève un dimanche soir, tout le monde s'en fiche. Il sera pas, voilà.
Moi, je vais essayer de répondre quand même. La galère avec les usagers, on les a tous les jours. Et moi, j'aimerais qu'on parle des usagers tous les jours. Pas uniquement les moments de grève, parce qu'autrement, on va au bout de la logique, on interdit le droit de grève à la SNCF. Parce que très honnêtement, pas pouvoir, et encore, je pense qu'il y a quand même la ligne 13 et la ligne B qui va marcher, donc ce soir, ils pourront aller au match. Mais c'est, en vrai, est-ce que c'est plus galère de ne pas pouvoir prendre son train pour aller au boulot que pour aller voir un match ? Ça se discute. C'est tout le temps galère.
Est-ce que les revendications sont légitimes ?
Et nous, les gars, et moi, j'aimerais enfin qu'on parle des cheminots en dehors des grèves, qu'on parle des usagers en dehors des grèves. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est toujours la même rengaine. C'est-à-dire qu'on parle des usagers et de la galère des usagers qui est tous les jours, moi je vous dis, parce qu'il y a des problèmes des déseffectifs, il y a du matériel qui est mal entretenu. Moi par exemple, il y a un train que je prends régulièrement, il est en unité simple au lieu d'être en unité multiple. Donc j'ai demandé pourquoi, vu que je suis en interne. C'est-à-dire que le train est divisé en deux. Voilà. Du coup, tout le monde est entassé à l'intérieur. Donc, j'ai demandé comment ça se faisait. Parce que on n'arrive pas à entretenir. Et pourquoi on n'arrive pas à entretenir ? Parce qu'on n'arrive pas à embaucher. D'accord. Donc, cette galère, ce n'est pas les jours de grève, c'est tous les jours. Donc, j'aimerais qu'on en parle en dehors des jours de grève.
C'est très bien. Alors, moi, j'entends tout à fait ce qu'a dit Georges. On comprend pourquoi vous faites grève aujourd'hui. C'est effectivement c'est un rapport de force. Vous l'avez dit. Oui, on peut ne pas accepter, mais. On explique. Bon, maintenant, est-ce que vous trouvez que les revendications, on a écouté, sont légitimes ?
C'est un métier technique, d'abord, il faut une compétence. Et deuxièmement, il y a des servitudes horaires, donc c'est pas simple. Il faut aller d'un bout à l'autre du pays. Enfin, on ne rentre pas chez soi tous les jours. Hein. C'est un peu normal que ça soit compensé par un bon salaire, ça, non ?
Et moi, je suis plutôt d'accord.
Le salaire que vient de dire monsieur, il me paraît... C'est un bon salaire.
Oui, mais c'est un bon salaire. Moi, l'histoire du SMIC, par exemple, c'est vrai que c'est une revendication qu'on peut entendre.
Non, mais je voudrais dire une chose. Oui. Vous faites venir monsieur, c'est très bien. Oui. Il y a un feu roulant de questions. Derrière, il y a les privilèges de la SNCF.
Ah non.
Forcément.
Pas du tout.
Ben si, non, combien vous gagnez ? Et alors, vous avez un 13e mois, vous n'avez pas très... Vous devriez faire la même chose.
Ça, c'est pas bien de dire ça, parce que c'est pas vrai.
Vous devriez faire la même chose avec un PDG du 440. Vous le faites venir, là, il s'assoit là, et vous lui dites... dites-moi, vous gagnez combien ? Ensuite, et le parachute pour la retraite, c'est combien ? Et vous travaillez combien de temps ? Vous devriez faire la même chose. Et on ne le fait jamais.
Ça n'a rien à voir. C'est
un dispositif.
C'est un peu démago ce que vous dites.
Pas du tout démago. Faites-le alors.
Il le sait bien, monsieur Villedieu, il n'y avait pas du tout dans mes questions quelque chose d'inquisitoire. Inquisitoire, ça se dit.
Oui, ça se dit.
Il y a une volonté de comprendre. Et de prendre à témoin avec ceux qui nous écoutent, qui peuvent se placer dans leur propre situation. De dire, voilà, je travaille, combien j'ai de vacances, etc. C'était pour ça, c'était simplement pour ça. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, il m'a convaincu, M. Villedieu, sur la SNCF devrait être un monopole naturel. Naturel. Je trouve qu'en France, on a fait aussi n'importe quoi depuis des années. Il suffit de prendre le RERB pour se rendre compte que c'est un scandale, en fait. Un vrai scandale, les infrastructures, ça a été mal fait. Là, tu vas à Gare Saint-Lazare pour aller en Normandie. Vous avez pris les trains pour aller en Normandie ? C'est invraisemblable. L'aménagement du territoire en France, c'est invraisemblable ce qui a été fait. Donc je suis plutôt enclin à entendre ce qu'il dit.
Et puis sur cette question des privilèges, entre guillemets, avec mille guillemets de la SNCF, quand il y a eu ce débat il y a quelques années, je trouve qu'il y a quelque chose de dangereux dans cette logique à vouloir pointer du doigt en nommant privilèges, ce qui est en fait une protection de certains travailleurs dans l'État social. Et à partir du moment où on commence à monter les travailleurs les uns contre les autres en estimant que certains qui ont des protections assez basiques et en effet qui sont très éloignés du confort matériel de la vie d'un patron du CAC 40, que ces gens-là sont des grands privilégiés qui usurpent en quelque sorte la place des autres, eh bien, on réduira leur privilège protection et ça finira par s'abattre sur d'autres travailleurs à la fin. Donc il ne faut pas être dans cette logique
Simplement, dans les revendications que vous faites, moi j'entends, il y en a une que j'entends, effectivement, c'est le SMIC, pour commencer. La deuxième, je l'entends moins, c'est-à-dire qu'on vous prévienne en permanence 24 heures avant, ça fait partie peut-être...
L'organisation.
Non, mais vous avez cité tout à l'heure le rendez-vous médical. c'est pas tous les jours que tu as un rendez-vous médical.
Oui, par contre, c'est tous les jours que vous devez récupérer vos enfants. Voilà, ça. Et c'est tous les jours que vous devez avoir à peu près une vie de famille. Et très honnêtement, non, aujourd'hui, moi, par exemple, je suis un agent qui était en roulement. C'est-à-dire, quand vous avez un roulement, c'est-à-dire, j'ai des horaires décalés, mais le fait d'être en roulement, je sais à quelle heure sont, oui, en fonction des jours. Sûr, voilà, ce qui vous permet de vous projeter, ne serait-ce de faire
la direction. Non, mais je suis d'accord, j'entends ce que vous dites.
Voilà, ou même voir votre femme, ou.
Oui,
voir
non, mais j'entends.
Si une femme. Et bien, ça, tout est chamboulé la veille pour le lendemain.
Et ça, ça n'existait pas il y a 10 ans.
Ça. Avec les travaux et avec les baisses d'effectifs, on n'est plus capable. Il y a une règle qui dit qu'on doit vous prévenir 21 jours avant. 21 jours avant, on peut tout vous changer, mais on doit vous prévenir 21 jours avant. Aujourd'hui, on ne sait plus le faire. Du coup, on le fait la veille pour le lendemain.
Mais vraiment, quand vous dites la veille pour le lendemain, c'est vrai pour tout le monde ou vous caricaturez ?
C'est vrai pour la très grande... Alors, de temps en temps, ils arrivent 4 jours avant à vous prévoir. Ouais. Mais en vrai, la règle, de plus en plus, maintenant, c'est la veille pour le lendemain.
D'accord,
et très
important, il faut aussi
se projeter. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que les gens, ils disent « Ouais, bon, les cheminots, ils aiment faire grève pour faire grève. »
Non, enfin, jamais
perdez,
je pense ça.
Moi, je vais perdre 100 balles sur l'histoire.
Bien sûr.
Voilà, donc je ne vais pas perdre. Il y a les problèmes de pouvoir d'achat. Je ne vais pas perdre à la veille des vacances pour me faire plaisir. C'est qu'il y a de véritables soucis. Par ailleurs, moi, je vais profiter pour dire quelque chose, j'ai envie de dire depuis un bout de temps. Aujourd'hui, on va avoir une mobilisation des salariés de la première et seconde ligne. Tous ceux qu'on a applaudis pendant des mois et des mois, qui ont tenu le service public, les agents du médical, les profs de l'éducation nationale, les cheminots, les éboueurs, tout ça, aujourd'hui, est confronté à quoi ? C'est-à-dire que c'est des gens qui n'étaient pas payés. En tout cas, pas suffisamment payés, et qui seront trouvés justement confrontés, qu'on a monté à juste cause, en disant bah, « c'est bien ce que vous avez fait », et deux ans après, on les a complètement ignorés. Et donc l'histoire des revendications salariales va revenir à fond. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas
ce qui va se passer là. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Je ne peux pas vous dire autre chose, je suis plutôt d'accord avec vous. Audrey Berthaud, il est 9h45.
Je vous en parlais hier, le chauffeur de camion qui a renversé volontairement un cycliste en janvier dernier a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. L'homme de 50 ans est également accusé de violence volontaire. Il a été condamné à une obligation de soins et a versé 6 700 € au plaignant. Au procès des attentats du 13 novembre, les avocats de Salah Abdeslam plaident aujourd'hui pour le seul membre encore en vie des commandos qui ont frappé Paris et Saint-Denis il y a 7 ans, avec l'espoir de lui éviter la prison à vie. Le parquet national antiterroriste a réclamé contre lui la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Et puis 8 hommes condamnés pour avoir volé une porte du Bataclan ornée d'une peinture de Banksy. Les peines vont de 6 mois avec sursis à 2 ans de prison ferme, bien en deçà des réquisitions du ministère public.
Merci Monsieur Villedieu, et je connais votre engagement personnel parce que vous aviez fait grève combien de temps ?
2 mois.
2 mois, donc vous n'aviez pas été payé pendant 2 mois.
J'ai mis 5 000 € sur la table et en mars 2020, j'ai une paye à 0. C'est la première fois que ça m'est arrivé, j'ai une paye en mars 2020 à 0. Après,
et quand...
je suis content parce que je pense avoir mis ma petite pierre à l'édifice dans le fait que la retraite à points a été retirée.
Et quand on dit parfois que c'est les syndicats qui payent la grève, le manque à gagner, c'est vrai ou pas ça ?
C'est faux.
Donc là, vous n'avez pas touché.
Il y a des caisses de grève qui existent, mais il y a tellement de grévistes que même si vous avez une bonne somme sur la caisse de grève, répartie en mieux. Moi, je crois que la caisse de grève, j'ai eu 50 balles. Voilà, donc c'est
Simplement,
vous avez dialogué avec la direction avant de déposer ce préavis de grève. Mais est-ce que vous avez eu des réponses ?
La direction, ça fait 6 mois qu'elle connaît le problème.
Oui.
Sauf que ce qui s'est passé, pour être honnête avec vous, c'est que vu que l'année dernière, les plans de transport étaient diminués suite au Covid. Voilà. Donc, on était en sureffectif. Donc, du coup, ça se voyait moins parce qu'on trouvait toujours des solutions. Là, le plan de transport est nominal. Donc, vu qu'elle n'avait pas anticipé ça, eh ben, on se retrouve dans une situation de crise. Et je tiens à dire, ça fait 6 mois, on a été gentils, hein. Moi, je me fais engueuler parce que moi, les collègues, ils me challengent. Ils viennent me voir, ils me disent bah, attends, Fabien, t'as su de rail, c'est quoi ce bordel? J'arrive pas à voir ma femme, j'arrive pas, on me change ma programmation. Vous faites quoi, vous, les syndicats? Donc ça fait des mois et des mois qu'on dit aux collègues, on va trouver des solutions, on va se calmer, on va trouver des solutions. Eh bien, au bout d'un moment, la solution, c'était la grève.
Merci, Fabien Villedieu. Autre sujet, l'affaire Sylvie Germain. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire Sylvie Germain, que je trouve absolument sidérante, et là encore, qui révèle notre société. Un extrait du roman « Jour de colère » de l'écrivain français a été proposé au bac de français. Depuis une semaine, des milliers d'élèves de première se déchaînent sur les réseaux sociaux, sur l'extrait en question et sur l'auteur, avec des propos souvent injurieux et parfois menaçants. On est avec Jean-Paul Brighelli, que vous connaissez. Jean-Paul Brighelli qui a fait une chronique, j'allais dire au chalumeau, publié dans Causeur. Bonjour Monsieur Brighelli, vous avez écrit brûler Sylvie Germain, elle a offensé les imbéciles. Donc vous parlez des crétins, etc. dans cette chronique. Je voudrais d'abord qu'on voit peut-être le sujet pour que les choses soient claires. Sujet de Sylvie Delettre. Merci Monsieur Villedieu.
C'est un extrait d'une vingtaine de lignes qui a été proposé aux élèves de première pour l'épreuve du bac français. Dans ce texte, extrait de son roman « Jour de colère », l'autrice, Sylvie Germain, y décrit 9 frères qui vivent dans la forêt.
Ils étaient hommes des forêts et les forêts les avaient faits à leur image, à leur puissance, leur solitude, leur dureté.
Certains lycéens ont jugé ce texte trop compliqué et se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Face à ce déferlement de haine, l'écrivaine s'est dite inquiète du symptôme que cela révèle dans une interview au Figaro.
C'est grave que les élèves qui arrivent vers la fin de leur scolarité puissent montrer autant d'immaturité et de haine de la langue, de l'effort de réflexion, autant que d'imagination et également si peu de curiosité.
Sylvie Germain n'est pas la première à déclencher la colère des lycéens.
Il faut se souvenir que Victor Hugo s'en est pris plein la figure, hein, lui aussi. Et ça avait été déjà le cas avec Laurent Godet, qui avait le malheur de parler du Tigre et de l'Euphrate, et où certains élèves n'avaient pas compris que le Tigre était un fleuve.
Jugeant la situation aussi absurde qu'affligeante, l'autrice dit souhaiter que la surenchère retombe aussi vite qu'elle a éclaté.
Jean-Paul Brighelli, vous avez qualifié ces jeunes gens qui sont à l'origine de messages de haine, de menaces de viol parfois ou de mort contre Sylvie Germain. Vous les avez qualifiés de crétins. Bonjour.
Bonjour. Oui, alors déjà, pour les spectateurs, Sylvie Germain est l'un des très très grands écrivains contemporains français. Si les jurys du Nobel avaient deux sous de bon sens, ils la désigneraient l'année prochaine. Bien. Deuxièmement, en 2005, l'un des romans de Sylvie Germain avait été Goncourt des lycéens. Vous dire à quel point le niveau est monté en une quinzaine d'années. Ça s'appelait Magnus. Ça, c'est un roman Jour de colère qui est paru en 1989. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai vu un très grand nombre de copies. Elle est associée au nouveau roman parce qu'elle est née en 1954. Entre la date de naissance et la date du mouvement, c'est la même chose pour tout le monde. Alors qu'en fait, elle appartient à ce qu'on pourrait appeler le réalisme magique. Elle est même, je crois, la seule en France à explorer cette filiation. Deuxièmement, ce qui les a choqués, c'est le fait que c'est écrit en très bon français. Il y avait même 2 notes pour des mots un tout petit peu plus difficiles, le mot « venelle », par exemple, que les jurys ont considéré comme compliqué. Mais en fait, j'explique ça dans mon article, il y avait une quinzaine de mots qui échappent complètement.
Et séculaire également, il y avait le mot « séculaire » qui était expliqué. Voilà. Mais je peux comprendre que des gosses de... des jeunes lycéens de 17 ans, 18 ans ne connaissent peut-être pas le mot « venelle » et « séculaire ». Ça, je peux le comprendre.
Oui, mais il y avait encore une quinzaine de mots qui ne comprennent pas non plus. Ça, je peux vous assurer que dans les copies, frayer, par exemple, c'est lettre morte. D'ailleurs, ils évitent d'en parler. Quand ils en parlent, ils font un contresens. Il faut bien comprendre que les élèves de première, c'est l'épreuve anticipée de français, c'est en première. Les élèves de première ont 500 mots de vocabulaire, dont 200 au moins sont des anglicismes. Voilà, on a parlé la semaine dernière, les élèves de bac pro ne connaissaient pas le mot ludique parce que pour eux c'est fun, mais là on constate une dépossession de la langue, sauf bien sûr, parce que je ne vais pas faire une généralité, sauf dans certains paquets de copies qui eux sont excellents et qui viennent de lycée, privé ou public, réputé. Donc on a la preuve même qu'on est dans un enseignement à 2 vitesses. D'un côté, on a des crétins qu'on a formés pour être crétins et qui vont le rester en manipulant leur télécommande. Et de l'autre côté, on a des élites qui propulsent leurs enfants vers les postes où ils les remplaceront.
On fait la pause et on revient vers vous. Je salue Noémie Schulz parce qu'on parlera d'Abdeslam et on sera avec Alain Jakubovic pour comment défendre l'indéfendable. Ça va être un de nos sujets tout de suite. Mais tout d'abord, la pause. Difficulté du métier qui est le mien. Est-ce qu'on peut élargir et mettre un plan large? Tous les vendredis, regardez, tous les vendredis, j'ai affaire à des gens qui vont fumer pendant la pause et je reprends sans eux. Que dois-je faire? Est-ce que je dois les sanctionner? Est-ce que je dois leur dire, comme un maître d'école, « Ah, ils reviennent, regardez-les, tout penauds, ils vont rentrer, rentrer, ils sont tout penauds. » Et tous les vendredis, c'est pareil. Ils partent comme des enfants.
C'est de votre faute, vous m'avez dit,
c'est la récréation. Il faut que vous compreniez, c'est la récréation. J'ai des enfants autour de la table. Vous êtes allé fumer, c'est ça?
Non.
Ah, on disait que vous étiez allé fumer. Je précise que Nathan Devers, Les Liens Artificiels, roman chez Albin Michel, vous nous l'avez apporté très gentiment ce matin. Et vous avez fait une dédicace pour chacun d'entre nous. Et c'est effectivement, si je comprends bien, je ne l'ai pas lu, bien sûr, encore. C'est un livre sur votre génération qui est entre le virtuel et la réalité.
Exactement.
Et je voulais vous dire, parce que ça fait un an que vous venez, le plaisir qu'on a à ce que vous soyez avec nous et à vous écouter, puis à saluer votre intelligence, qui n'est pas si fréquente dans le monde dans lequel nous vivons. Les Liens Artificiels, roman, c'est chez Albin Michel de Nathan Devers.
Et plaisir entièrement partagé.
Bah écoutez, j'en suis vraiment... vraiment très heureux et très content. Donc il est 10h01 et Audrey Berthaud, elle, qui est disciplinée, elle était à l'heure pendant que vous étiez, vous, je ne sais où. Et Audrey Berthaud pour le rappel des titres.
Au café.
La vaccination contre la Covid a permis d'éviter près de 20 millions de morts. C'est le résultat d'une étude publiée dans The Lancet. Elle est basée sur des données provenant de 185 pays et territoires. Les orages ont été encore nombreux cette nuit dans les trois quarts du pays. Par endroits, la grêle a fait de gros dégâts et avec ces orages, des trombes d'eau sont également tombées. 5 départements sont en vigilance orange pour orage. Enfin, à New York, hier, un chien de Saint-Hubert a remporté le plus grand honneur du monde canin, celui de grand champion du prestigieux concours de Westminster. C'est la première fois qu'un chien de cette race gagne ce concours. Ce chien s'appelle Trompette. Après sa victoire, il a patiemment, comme vous le voyez, pris la pause pour des photos.
Il est formidable ce chien, j'avais pas vu cette information. Est-ce qu'on peut le revoir ce chien? Il est... Comment... c'est quel...
Il s'appelle Trompette. C'est un chien de Saint-Hubert.
Un chien de Saint-Hubert? Mais j'avais jamais vu ça, ce chien. Un chien comme ça, le chien de Saint-Hubert. Il doit manger des biscottes, peut-être, mais bon.
On l'invitera la prochaine fois.
C'est les chiens de la gendarmerie. Comment?
On l'invitera.
C'est le chien pisteur de la gendarmerie. Bon, on termine. D'abord, nous sommes heureux d'être avec Noémie Schulz. On parlera d'Abdeslam dans une seconde. On sera également avec Alain Jakubowicz. Comment défendre l'indéfendable? On termine simplement sur Sylvie Germain. Monsieur Brighelli est resté avec nous. Bon, on vous connaît. Vous êtes effectivement jugé comme très réactionnaire et très conservateur sur ces sujets de l'école. Je voulais simplement savoir s'il y avait des réactions sur le plateau, Nathan.
Moi, j'avais une réaction. C'est que quand Monsieur Brighelli parle de crétin, il ne faut pas y voir une insulte. Crétin, ça veut dire des gens qui ont été victimes d'abrutissement.
Oui.
Ce n'est pas de dire que ce sont des gens qui sont naturellement bêtes ou de les stigmatiser. Ce n'est pas du tout ça. C'est de dire que c'est une génération qui est tout aussi intelligente que toutes les générations, mais qui est victime beaucoup plus que les précédentes d'une aliénation permanente, notamment par les réseaux sociaux, qui a des effets très concrets, hein, la paupérisation du vocabulaire.
Et les parents?
Mais les parents n'y peuvent rien. Moi, j'ai pas encore d'enfants. Mais je veux dire, quand on voit...
Noémie, elle a deux jeunes enfants. Quel âge ont vos enfants, Noémie?
3 et 9.
Bon, ils sont encore à l'écart de ça. Peut-être qu'elle va... elle sera très directive pour que ses enfants ne tombent pas là-dedans. Les parents ont une responsabilité, quand même.
Je vous le souhaite, mais ça me semble extrêmement difficile pour un parent de pouvoir enrayer...
Déjà, tu peux choisir l'école où tu mets tes enfants.
Oui, mais prenons la situation de l'addiction aux écrans. Comment vous empêchez ça chez un enfant?
Oui.
Comment vous empêchez chez un enfant l'addiction aux écrans?
Mais moi, je connais des parents, je vois parfois des parents, je suis en train de déjeuner, et les parents, pour avoir la paix, ils mettent leur enfant qui a 2 ans, ils lui mettent déjà un petit écran. Bah, faut pas qu'ils s'étonnent que dans 10 ans, le gosse soit un crétin, comme vous dites. Moi, je trouve que la responsabilité des parents...
Je suis pas d'accord avec Nathan, parce que on se plaint à juste raison de la grossièreté... la vulgarité de ce qu'on peut lire sur les réseaux, c'est pas la peine de faire la même chose. Traiter quelqu'un de crétin, on peut toujours dire que c'est un mot très sympathique. Non, c'est une insulte. Donc on se met au même niveau que les gens
Dont
on déplore le manque de vocabulaire.
Il faut nommer les choses. Quand M. Brighelli...
On peut dire ignorant, on peut dire quelque chose de... crétin, c'est une insulte.
Alors vous pourriez dire ignorant. Vous pourriez dire, pourquoi vous ne dites pas ignorant? Pourquoi vous ne dites pas ignorant, effectivement?
C'est moins vrai.
Je peux l'expliquer. Je veux dire, parce que, comme l'a dit Nathan Devers, ils ont été crétinisés. Ils l'ont été d'une façon délibérée, permanente, à 90% selon un projet qui a été établi par le protocole de Lisbonne en 1999. C'est un plan établi qui a été voulu. Ces enfants sont certainement des victimes, mais il faut bien tenir compte du fait que ce sont des victimes d'une arrogance extraordinaire qui est à la hauteur de leur ignorance. Ignorant, ça peut être à peu près sympa. L'ignorant, en général, demande à apprendre. Le crétin, ce qui le caractérise, c'est qu'il est sûr de savoir. Voilà. Les petits crétins disent de Sylvie Germain qu'elle est insupportable, etc. Ils n'ont pas en eux assez d'intelligence pour égaler une rainure d'ongles de Sylvie Germain. Voilà. Ni d'ailleurs de Nathan Devers, dont moi j'ai lu le dernier bouquin, qui est formidable.
Les liens artificiels, vous l'avez déjà lu ?
Oui, je l'ai déjà lu. Mais sauf erreur, il ne sera en librairie qu'à partir de la mi-août.
Ben oui.
Voilà, donc il ne faut pas... je l'ai déjà lu et c'est vraiment un truc remarquable. On en reparlera éventuellement.
Ben, je vais le lire.
Sur l'Internet 3.0 et le Métaverse, c'est le bouquin définitif.
Je vais le lire ce week-end. Je vais essayer, en tout cas, Albin Michel. Merci, monsieur Brighelli. Vous devez partir pour Béziers, je crois.
Eh oui.
Bah, oui, bah, bon, c'est pas... vous avez l'air triste de partir pour Béziers.
Non, du tout. Je veux dire, j'échange la chaleur marseillaise pour la chaleur bitéroise.
Ah oui, il fait chaud, là Non, il fait moins chaud aujourd'hui. Il y a pas... La canicule est passée, non?
Non, la canicule est passée, mais il est tombé quelques gouttes, ce qui fait que nous vivons dans un sauna, vous voyez. Et c'est mieux dans... croyez-moi, vous êtes mieux dans votre studio.
Bon, merci.
Allez, bonne journée.
Merci beaucoup. On va parler d'Abdeslam. On va appeler Alain Jakubovic dans une seconde. Ce procès fleuve, il y a des gens qui ont assisté à toutes les audiences. Quand est-ce qu'il a commencé, ce procès?
Début septembre.
Absolument incroyable.
Il aurait dû se terminer à fin mai. Et puis, il y a eu des retards en raison notamment de cas de Covid chez plusieurs accusés qui ont entraîné à chaque fois la suspension du procès. Et donc, le verdict, c'est mercredi prochain.
Le verdict, c'est mercredi?
Oui.
Bon. Là, aujourd'hui, c'est les avocats de la défense qui continuent d'ailleurs, parce que des défilés, on parle d'aujourd'hui parce que c'est Abdeslam, mais les plaidoiries de la défense ont commencé.
Ça fait 2 semaines à peu près que les avocats de la défense plaident. Il y a pour les 14 accusés qui étaient physiquement présents. Et c'est le dernier jour, avec cet après-midi, Olivia Ronen et Martin Vett, les deux avocats de Salah Abdeslam, qui prennent donc la parole en dernier pour défendre leurs clients.
Bon. Quel est le profil de ces deux avocats?
Alors, ce sont deux jeunes avocats. Ils ont 32 ans, donc ils ont près le même âge que Salah Abdeslam. Olivia Ronen, notamment, est une ancienne secrétaire de la conférence, et donc ça fait partie de ces jeunes avocats pénalistes très, très prometteurs et qui avaient passé ce qu'on appelle le concours de la conférence et un concours d'art oratoire. Et il y a beaucoup d'ailleurs d'avocats au procès du 13 novembre qui sont issus de la conférence. Elle est rentrée dans le dossier très discrètement en 2018.
Ils ont choisi, ils ne sont pas commis d'office. Ils ont choisi de défendre Abdeslam.
Ils ont accepté de défendre Abdeslam. Olivia Ronen, elle a été contactée par Salah Abdeslam en 2018. Il lui a écrit. On ne sait pas de quelle façon il s'était procuré ou il avait décidé de lui écrire à elle. Elle était intervenue sans doute dans des dossiers. Il avait eu vent de ce qu'elle était capable de faire. Il lui a écrit et elle a choisi d'accepter de le défendre. Ça n'a pas été facile. Hein. Elle a eu l'occasion de le raconter parfois. Ça a suscité beaucoup d'incompréhension, y compris parfois de personnes de son entourage, des personnes.
Mais elle a été là, par exemple, depuis le mois de septembre. Elle a été là à chaque audience?
Pratiquement tous les jours.
Mais c'est un secret. J'imagine que c'est pas Abdeslam qui paye. Donc pendant un an, elle met sa carrière professionnelle entre parenthèses. J'imagine qu'il n'y a pas de ressources.
Alors il y a l'aide juridictionnelle. Donc les avocats, tous les avocats peuvent toucher l'aide juridictionnelle. Et puis il y a un système qui s'est mis en place avec des avocats de partie civile qui eux vont avoir pour certains des très grosses rentrées d'argent parce que quand vous avez plein de vous représentez beaucoup de victimes comme c'est le cas pour certains cabinets avec un système où ils vont verser une partie aussi pour les avocats de la défense.
D'accord, parce que j'imagine que c'est quand même...
En place.
Vous voyez, c'est une question...
J'ignorais totalement.
C'est une question concrète. Moi, j'aime bien poser des questions très concrètes et je me dis, mais comment, pendant un an, tu mets ta carrière. En plus, elle est attaquée, les avocats sont attaqués, insultés.
Elle, a été la cible de d'attaque. On se souvient de Éric Dupond-Moretti quand il défendait Abdelkader Merah, qui avait reçu lui aussi des menaces de mort pour lui, pour sa famille. C'est évidemment une difficulté supplémentaire quand vous défendez ce qui apparaît aux yeux de beaucoup de monde.
Je disais tout à l'heure, ils ne vont pas plaider. Bien sûr, l'acquittement.
Non.
Je ne sais pas si Monsieur Jakubowicz est déjà avec nous. Jakubowicz, d'ailleurs. Alain Jakubowicz. Et d'ailleurs, il sera mardi avec nous. Bonjour Alain Jakubowicz. Merci Bonjour. D'être avec nous. C'est un sujet classique. L'avocat qui défend un monstre. Je vous laisse qu'on écoute dans un film assez intéressant qui s'appelle L'avocat de la terreur, je crois. On écoute ce que dit Jacques Vergès à l'époque sur les raisons ou les motivations de sa défense. Écoutez ce qu'il disait.
Je lui ai dit, merde, tu vas défendre Barbie, c'est quand même un peu scandaleux.
Un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que vous défendriez Hitler? J'ai dit, mais je défendrai même Bush. Et on m'a dit, mais à quelles conditions? J'ai dit, à condition qu'il plaide coupable.
Question classique, Alain Jakubowicz. Est-ce que vous partagez ce que dit Jacques Vergès, à condition qu'il plaide coupable? On peut défendre, j'ai envie de dire, n'importe qui.
Non, on ne peut pas défendre n'importe qui, bien sûr que non. Moi, par exemple, j'ai été sollicité dans le procès actuel, j'ai décliné, parce que je considère que je ne peux pas être le meilleur quand je défends un terroriste, parce que je ne peux pas défendre un terroriste, donc j'ai dit non. Mais je suis tellement heureux qu'il y ait des jeunes et talentueux confrères qui le fassent et qui le feront avec talent. Aujourd'hui, ils sont l'honneur de la robe. Il y a un mot que je veux reprendre, non, ils ne défendent pas un monstre, c'est trop facile pour nous, vous savez. On se donne bonne conscience en disant que ce sont des monstres. Non, ce sont des êtres humains, ils appartiennent à l'humanité et ils ont commis des actes monstrueux. Il y a une différence fondamentale. Attention aux mots. Ce sont des hommes, ce sont des femmes qui commettent ces actes. Ce sont nos enfants, c'est nous qui les avons fabriqués. Alors je ne dis pas qu'on en est responsable, que les choses soient claires, mais c'est trop facile de dire ce sont des monstres et par conséquent, ils ne doivent pas être défendus. Bien sûr que non. Bien sûr que non, ils doivent être défendus. C'est l'honneur d'un état de droit. C'est la différence entre un état de droit et la barbarie. C'est d'accorder aux assassins les plus monstrueux, ceux qui ont commis les actes les plus monstrueux, les plus terribles, de leur accorder les droits qu'ils ont refusés à leurs victimes. Voilà, c'est cela un état de droit. Et je suis heureux et je suis fier que de jeunes avocats fassent ce que moi, je ne pourrais pas faire. C'est ça l'honneur de notre robe.
Précisément, Alain Jakubowicz, pourquoi vous ne pourriez pas le faire? Vraiment, précisément, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui vous empêche de le défendre, précisément, M. Abdeslam.
Écoutez, vous savez, nous sommes sans doute, nous, avocats, la dernière profession libérale. C'est-à-dire un professionnel qui a le droit de dire non. De dire, je ne peux pas vous défendre, je ne veux pas vous défendre. Alors, il peut y avoir plein de raisons. Il peut y avoir des raisons financières. Il peut y avoir des raisons intellectuelles, il peut y avoir... Et puis, il y a également, je dirais, la ligne rouge de quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. Ma propre ligne rouge, on me l'a beaucoup reproché, a évolué avec le temps. J'ai défendu récemment, effectivement, un accusé, on me l'a beaucoup reproché en disant que lorsque j'étais jeune, j'avais dit que je ne pourrais pas le faire. Eh bien oui, j'étais jeune. Et je ne suis pas... à 60 ans passés, près de 70 ans, le même avocat que celui que j'étais lorsque j'avais 30 ans. Ma ligne rouge a évolué. Celle du terrorisme est immuable. Voilà, je ne peux pas la bouger. À partir du moment où on rentre dans une défense qui a trait à une forme d'idéologie, les assassins terribles de ces actes qui ont été commis, il y a une idéologie derrière. Il y a quelque chose qui, pour moi,
j'entends bien, c'est ce qui m'intéressait.
Et que je ne peux pas défendre.
C'est ce qui m'intéressait de comprendre.
Ce dont parle Maître Jakubowicz, je partage entièrement ce qu'il vient de dire. En fait, ça a un nom, la défense, ça s'appelle la clause de conscience.
Oui,
absolument.
L'avocat peut faire jouer sa clause de conscience. Je ne peux pas, en conscience, défendre. Ça ne veut pas dire que l'accusé n'a pas le droit à une défense.
Bien sûr.
Moi, personnellement, je ne peux pas. Ça va au-delà.
Mais j'entends bien, mais puisque vous en avez parlé, je ne voulais pas vous en parler, Alain Jakubowicz, parce que vraiment, je ne trouvais pas forcément délicat de ma part de poser cette question. Mais puisque vous-même, vous en avez parlé, je vais poser cette question et je suis persuadé que les téléspectateurs se la posent. Pardonnez-moi hein, peut-être, j'espère que cette question ne vous choquera pas. Qu'est-ce qui vous permet de défendre d'un côté Nordal Lelandais, qui est accusé d'avoir tué une jeune enfant, et qu'est-ce qui vous empêche de défendre Abdeslam? Et vous y avez répondu pour Abdeslam, mais et je le comprends, mais à ce moment-là, cette grille de lecture, certains peut-être s'étonnent qu'elle ne soit pas appliquée pour un tueur d'enfants.
Là, je l'ai dit, c'est l'idéologie, c'est le mobile, c'est le crime est bien sûr que pour les victimes, pour l'opinion publique, le crime est le même. C'est une enfant qui est morte dans des conditions terribles, bien sûr. Mais pour moi, à mes yeux, la défense n'est pas du tout la même, parce que il y a cette notion, je le dis, d'idéologie, de volonté hégémonique. Il y a une, je dirais, un motif qui est horrible, qui est insupportable aux attentats du 13 novembre. Il n'y en a pas dans l'acte d'un criminel, j'allais dire, entre guillemets, de droit commun. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle ces assassins-là sont jugés devant une cour d'assises spéciale.
Je vous remercie vraiment, parce que c'est...
Et bien sûr, le droit qui s'applique elle-même, mais l'appréhension du sujet n'est pas la même. Et d'ailleurs, la cour d'assises devant laquelle, qui est appelée à juger ces attentats, est une cour d'assises qui est composée exclusivement de magistrats et non pas de jurés. Il y a là une différence qui est
restez
une différence
avec nous,
fondamentale.
Jacobowitz, parce qu'il est
mais je comprends qu'elle puisse échapper.
Je suis obligé de vous couper bien parce sûr. Qu'il est 10h16 et vous savez que nous avons un rendez-vous d'info tous les quarts d'heure. Audrey Berthaud, mais c'est passionnant. Et vraiment, je vous remercie beaucoup, avec beaucoup de courage intellectuel, d'apporter ces réponses que les uns et les autres peuvent se poser. Audrey Berthaud.
Le parti conservateur du Premier ministre britannique Boris Johnson a essuyé deux défaites lors d'élections parlementaires partielles qui ont provoqué la démission du président du parti au motif que quelqu'un doit prendre ses responsabilités. Le gaz, une ressource stratégique en pleine guerre en Ukraine. À Bruxelles, la Norvège s'est engagée à augmenter durablement ses livraisons de gaz vers l'Union européenne en développant de nouveaux gisements en mer du Nord. La Norvège livre déjà un quart de la consommation en gaz des 27. Enfin, après la pénurie d'huile de tournesol, c'est au tour de la moutarde. Depuis plusieurs semaines, difficile d'en trouver dans les supermarchés. En cause, une faible récolte des graines aggravée par la guerre en Ukraine.
Passionnant échange sur le fond, pour le coup, avec Alain Jakubowicz, de ce que doit être un avocat et sa ligne rouge personnelle et comment il peut défendre les uns et peut-être pas les autres. Simplement, cet après-midi, que vont plaider ces avocats ?
Les avocats de Salah Abdeslam, vous l'avez dit, ils ne vont pas plaider l'acquittement. Il ne s'agit pas de dire notre client, il est innocent. C'est pas l'enjeu, il n'est pas là. La peine qui a été requise contre Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre, c'est la peine la plus lourde qui existe en droit français, c'est la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. S'il était, cette peine, elle a été prononcée à 4 reprises uniquement. S'il est condamné à cette peine-là, la chance, la perspective de sortir un jour de prison, j'en parle dans de très nombreuses années, elle est infime. Ça veut dire une vie entière derrière les barreaux. Les avocats de Salah Abdeslam, ils vont demander aux magistrats qui composent cette cour d'assises spéciale de se montrer plus clément, de prendre en compte l'évolution de Salah Abdeslam. Salah Abdeslam, c'est quelqu'un, on s'en souvient, qui est resté silencieux pendant toutes les années d'instruction, qui au premier jour même encore du procès se présente comme un soldat de l'État islamique, et puis qui a évolué quand même au fur et à mesure des audiences.
Il y a discussion sur le procès, il y a discussion, tout le monde ne partage pas votre avis.
Ce n'est pas mon avis, Pascal, oui. Vous me demandez ce que vont dire les avocats.
Non, vous dites qu'il a évolué, il y a des gens qui trouvent qu'à l'issue de ces 10 mois...
Il a évolué, on ne peut que constater le fait qu'il a parlé. Ça c'est, oui. ça, c'est sûr, ça, c'est objectif. Ensuite,
il n'y a jamais eu l'ombre d'un remords.
Il a présenté des excuses. Il y a eu des larmes, il a présenté des excuses. Alors, certains diront que c'était très préparé, que c'était téléguidé, mais objectivement, il y a eu une forme d'évolution.
Alors, ça, c'est une question aussi pour l'avocat que vous êtes.
Est-ce que vont dire, un mot encore, ils vont insister, les avocats de Salah Abdeslam, sur le renoncement. Oui. Ils disent qu'il a dit j'ai renoncé par humanité à déclencher ma ceinture explosive. Ça n'a pas convaincu le parquet antiterroriste qui pense que non, il n'a pas renoncé mais que sa ceinture n'a pas fonctionné. Mais juste un dernier mot sur hier la plaidoirie pour Abrini qui lui a renoncé à deux reprises, Mohamed Abrini. Ses avocats ont dit vous ne pouvez pas le condamner à la prison à vie alors qu'il a renoncé, alors qu'il a fait un pas vers la communauté des hommes.
Bon, question vraiment passionnante, Alain Jakubowicz, je vous la pose à vous. Est-ce qu'il faut donner un espoir dans la peine à celui qu'on condamne ou est-ce qu'il faut lui donner aucun espoir pour les 50 prochaines années de sa vie?
C'est une question que vous me posez?
Oui.
Écoutez, vous savez, moi j'ai eu ce... C'est terrible, j'ai entendu ces réquisitions de réclusion criminelle à perpétuité. C'est terrible pour un professionnel d'entendre ce mot. Et c'est terrible pour un magistrat de le prononcer. La perpétuité, c'est l'éternité. Il n'y a aucune chance. Vous ne sortirez pas. Et dans la perpétuité effective, comme Noémie vient de le rappeler, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a aucun espoir. Et si vous nous interrogez, et ce n'est pas mon ami Georges Fenech qui va me contredire, si vous interrogez la pénitentiaire, les gardiens de prison, ils ont horreur de ça. Garder un homme en cage pendant sans aucun espoir de sortie, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. Parce que tout être humain, quand bien même a-t-il commis les actes les plus horribles, doit avoir une lueur d'espoir. Et entendre ce terme de perpétuité, je peux vous dire que lorsque j'étais avocat du côté de la partie civile ou de la défense, c'est un terme qui est terrible à entendre, terrible. Et des magistrats m'ont fait la confidence et la confiance de me dire que c'était terrible pour eux de le prononcer également. Voilà, nous sommes dans une communauté d'humains. Je sais que les actes qui ont été commis sont pour beaucoup perçus comme inhumains. Et ils le sont.
Enfin, voilà, moi, si vous me permettez, un commentaire personnel, ça ne me gêne pas beaucoup que M. Abdeslam reste toute sa vie et qu'il n'ait aucun espoir de sortir, à titre personnel, hein, bien sûr.
Ce n'est pas le cas.
Comment ?
Ce n'est pas le cas, parce que la peine perpétuelle incompressible, c'est 30 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, l'incompressibilité, c'est 30 ans. Pendant 30 ans, il sait qu'il ne pourra pas sortir d'une manière ou d'une autre. Par contre, passé 30 ans, un tribunal...
Ah, c'est pas ce que j'entends, moi, sur cela.
Ah, oui, c'est
pas ce que j'entends, Alain Jakubowicz.
Il y a une précision à apporter. C'est qu'effectivement... Oui. Alors, c'est toujours l'Europe, vous savez, qui est critiquée. Bon, nous avons été obligés, effectivement, notre législation, notre... On doit laisser cette toute petite lueur d'espoir. Ce sont effectivement les obligations qui nous sont faites par la Convention européenne des droits de l'homme. Mais c'est ce que nous appelons, nous, dans notre droit, la peine incompressible. C'est celle qui ne permet pas de le demander avant 30 ans, qui permet de le demander, mais on ne l'obtient pas. Mais on doit pouvoir le demander.
Non, mais j'entends ce que vous dites et j'entends ce que vous dites.
Il a été prononcé à 4 reprises, ouais. Effectivement, mais aucun tribunal d'application des peines n'aurait, par exemple, libéré Fourniret, qui est mort en prison. Hein. Il y a des individus que aucun tribunal...
Et comme Marc Dutroux.
Hein. Non, Marc Dutroux, il sera libéré. Je ne sais pas s'il n'a pas...
Marc Dutroux sera libéré. Mais vous êtes sérieux? Je crois, oui. Mais Marc Dutroux ne sera jamais libéré. Mais enfin, comment pouvez-vous dire ça? Marc Dutroux ne sera...
Un jour ou l'autre, il aura une libération conditionnelle. Il n'y a pas de... Non, mais je vous assure.
Pardonnez-moi, les bras mentons.
Je vous dis ce qui se passera. Je ne vous dis pas que ça me convient.
Je pense que, précisément, sur un tueur d'enfants pédophile, Marc Dutroux, je vous assure, j'espère qu'il ne sera jamais libéré. Je vous le dis, mais bon. Refermons la parenthèse.
Suffisamment d'expérience pour vous dire. Que...
Bon, en tout cas, vous serez là mardi, Alain Jakubowicz, pour être avec nous. Parce que il y a longtemps d'ailleurs que vous n'étiez pas venu sur notre plateau et c'est bien de vous avoir eu ce matin parce que c'est vraiment des sujets qui nous passionnent. Vous étiez au contact de Jacques Vergès. Alors parfois, il y a aussi. On se dit l'avocat est là aussi pour faire parler de lui. Hein, je ne parle pas pour ces deux jeunes avocats qui sont avec Abdeslam. Parfois, il y a aussi un numéro que joue l'avocat pour se mettre lui-même en valeur. Il existe, vous en convenez?
Bien sûr que j'en conviens. C'était effectivement le cas de Jacques Vergès. Nous sommes d'ailleurs dans le 35e anniversaire du procès de Klaus Barbie qui était en cours il y a 35 ans, jour pour jour, pratiquement vers sa fin. Oui, bien sûr, mais vous savez, Jacques Vergès était un adepte de la défense de rupture, c'est-à-dire celle qui consiste à contester au juge le droit de juger. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là, nous sommes dans le cadre de ce que lui appelait la défense de connivence, c'est-à-dire celle qui est la défense de l'accusé, non pas la défense de l'avocat, je dirais. Voilà, mais les médias jouent un rôle important dans tout cela. Les médias doivent être utilisés... par un avocat dans l'intérêt de son client et non pas dans son intérêt personnel, c'est évident. C'est évident. Mais merci. Il est important de le rappeler parfois.
Merci beaucoup, Anna Jakubowicz.
Et en l'espèce, les avocats de Salah Abdeslam ont été extrêmement discrets. Elle a très peu pris la parole, Olivia Ronen. Et ils ont quand même, dans le travail qu'ils ont fait, considéré qu'il n'y a pas d'évolution, mais sans doute qu'ils ont leur part aussi. C'est notamment grâce à eux si Salah Abdeslam a pris la parole. Après, on peut juger qu'il n'a pas apporté les bonnes réponses, qu'il a menti. Le fait est qu'il a parlé et que c'était important quand même, notamment pour les victimes, que Salah Abdeslam s'exprime lors de ce procès.
Je rappelle 131 morts lors des attentats du 13 novembre, 413 blessés, 99 blessés grièvement, ça veut dire des gens qui sont aujourd'hui handicapés à vie, des familles endeuillées. Voilà l'homme qu'on va juger.
Elle va durer combien de temps, cette plaidoirie ?
Alors, on ne sait pas à l'avance, mais par exemple, hier, la plaidoirie des deux avocats de Mohamed Abrini, ils ont plaidé chacun une heure et quart. Donc, ça n'a pas besoin forcément d'être très long, une plaidoirie. Et il y en a qui sont très brillantes. Il y a des avocats, jeunes avocats de défense dans ce procès qui sont très brillants.
Abdeslam est venu tous les jours depuis 7 ans ?
Abdeslam était là, dans le box. Alors, il a eu le Covid à un moment, c'est pour ça qu'il y a eu une suspension, mais lui, il était là.
Merci, merci et rendez-vous mardi avec Maître Jacques. Vous ne vous êtes pas exprimé, Laurent. Ah, vous voulez rajouter un mot, Alain Jacobowitz?
Oui, sur la durée de la plaidoirie. Jacques Vergès, au procès Barbie, a plaidé deux jours, deux après-midi complètes. Et Demi vient de le rappeler, effectivement, ce n'est pas la longueur d'une plaidoirie qui fait son efficacité. Il y a un seuil à ne pas dépasser. C'est le professionnel qui vous le dit. Au-delà de deux heures, vous êtes inaudible. Plus personne ne vous suit. Donc, c'est aussi une technique, ça s'apprend.
Ah oui, c'est pour ça qu'on fait des émissions d'une heure et demie.
Ouais. Moi, je vais.
Le matin. Non, mais vous n'avez pas raison. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour un prof. C'est vrai, effectivement, au bout de deux heures, c'est compliqué. Laurent Geoffroy, qui ne s'est pas exprimé.
J'ai un mot sur Vergès. C'est un personnage exécrable. Il faut le dire.
Non.
Moi, je trouve. Parce que son idéologie, j'entends. C'est quand même un type qui a voulu relativiser les crimes nazis pour mettre en valeur. Sur ce point-là, il avait raison. Les crimes coloniaux. Mais il les a mis tous sur le même plan. Les nazis, les coloniaux, c'est pareil. Alors que c'est pas pareil. Et donc je trouve que cette idéologie extrémiste, quoi, nihiliste à certains égards, est absolument détestable. Et Vergès en était le symbole typique. Et donc, j'entends toujours, oui, c'est un personnage de roman, c'est formidable, etc. Non, pas du tout.
On peut être exécrable et romanesque.
C'est un sale type.
On peut être exécrable et romanesque.
Paix à son âme, comme dit l'autre, mais
dans le rôle du méchant.
Le fait qu'il ait disparu pendant 8 ans,
quasiment. On dit ça de manière pour l'excuser. Quoi.
Bon, comme on est en retard, je voudrais qu'on salue notre ami Philippe Labrault
et qu'on voit un extrait de l'émission. Dimanche prochain, c'est terrible, j'ai l'impression d'être dans la même situation que la semaine dernière. Voilà. Il reçoit Didier Meyerand, qui est journaliste et fondateur de Psychodon, un mouvement dont le groupe Canal d'ailleurs est partenaire et qui vise à lutter contre les maladies psychiques. Écoutez cet échange avec Philippe Labrault, ça s'appelle L'Essentiel chez Labrault, c'est tous les dimanches sur C8.
J'ai un problème de vue. Je vais chez l'ophtalmo.
Ouais.
J'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste, je me sens pas bien dans ma tête, je vais chez le psy. Et il n'y a pas de tabou, il faut vraiment partager nos émotions avant qu'elles nous cancérisent sur le plan psychique, avant qu'elles nous fracturent. Nos émotions sont toutes légitimes, j'ai le droit d'être triste, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être joyeux. Toutes nos émotions orchestrent notre santé mentale, nous pouvons les partager pour être au mieux dans nos vies. Et c'est pour ça que nous, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux avec un hashtag. Ouais. Hashtag, c'est quoi ton mood?
Et Philippe Labrault recevra également Nicole Lambert, qui est la créatrice des Triplés. Vous connaissez ça, les Triplés, hein, dans le Figaro Magazine. C'est merveilleux, cette petite bande dessinée. Il y aura également Agatha Hébras, qui est la petite fille de Robert Hébras, qui est le dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane. Et le musicien Thomas Leleu, joueur de tuba mondialement renommé. Il est 10h30, Audrey Berthaud.
Cet été, préparez-vous à arriver plus tôt à l'aéroport qu'auparavant. C'est ce que demande le Conseil international des aéroports qui, pour certains, peinent à retrouver leur efficacité après la crise sanitaire. Et puis s'ajoutent plusieurs grèves de certaines compagnies qui perturbent les départs en vacances. Dans le sud de l'Ukraine, un fonctionnaire de l'occupation russe a été tué aujourd'hui. Ça s'est passé à Kherson dans un attentat. Ce type d'attaque se multiplie selon les autorités. Enfin, en Équateur, au moins 6 personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées dans de violents heurts entre manifestants indigènes et forces de l'ordre. Depuis 10 jours, des milliers d'Équatoriens protestent contre le coût de la vie et réclament plus d'aide sociale.
C'est terminé, Audrey ?
C'est terminé.
Ça a été vite. Merci beaucoup. C'est la dernière émission de la semaine. Donc, c'est l'occasion de remercier Marine Lançon et Justine Cerquera qui étaient avec nous. À la réalisation, il y avait Michael Thomas, Jean-François Couvlard était au son. À la vision, Mélanie. Donc, je rappelle le programme de notre week-end, puisque Laurent également, a, d'autant que M. Brigali nous a mis l'eau à la bouche, hein, en nous disant... Alors, ça ne sort qu'en août. Hein.
J'ai une dédicace qui est mieux que la vôtre.
Oui, ah oui. Ouais.
Facile à lire.
Oui, c'est vrai. Ah bon. Attendez. Bon. On vous donnera les crayons de couleur aussi la prochaine fois qu'on vous offrira un livre. C'est un roman, donc il est possible qu'il soit sur la liste des concours. Pourquoi pas ?
Ah, c'est possible, j'en sais rien. Oui.
Bah, c'est un roman. Bon. Merci Noémie. Passez un excellent week-end à tous et Jean-Marc Morandini dans une seconde.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. Courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.